mai 91. Je tourne en rond du côté de la gare de Montparnasse. J'ai 2 heures à tuer. Je traîne. Mais tout d'un coup, une envie me prend de ne plus être ce petit point qui tourne en rond. Je vais voir les choses de haut. Peut-être un sursaut de mégalomanie de ma part. Enfin, peu importe. Je prends en direct pour le 39e étage de la tour Montparnasse. En sardiné avec des Japonais et des Allemands, j'entreprends l'ascension de ce monstre laid et inutile. Mon estomac me remonte jusqu'à la glotte avant de descendre dans les talons. Bah. Et ce caisson ascensionnel qui brinque-balle dans tous les sens, je me rends compte que ma vie ne tient plus qu'à un fil. 39e étage. Quelques volées d'escalier et pouf, je domine enfin Paris. Enfin, je ne suis pas seul à le dominer. C'est impressionnant. Et j'imagine déjà le futur avec un monde plein de tours, où le soleil n'arriverait même plus à toucher le sol. Les riches seraient plafonnés au sommet et les sans-sous en dessous. Tout d'un coup, mon œil est attiré par un petit espace vert à quelques dizaines de mètres de la tour. Il a fallu que je monte au 39e étage pour m'apercevoir qu'il y avait un cimetière à Montparnasse. Je vomis ce building et saute dans l'ascenseur. Quelques minutes plus tard, je rentre dans le cimetière, j'entre, et le bruit de la grande ville s'arrête comme par enchantement. Tout d'un coup, tout devient étrange. J'entre. Tout est calme. Un petit plan accroché à la guérite reprend l'emplacement des personnalités les plus célèbres qui dorment en paix. Quelques noms attirent mon attention. Sartre et Simone. Et Rézère, qui ne fait même plus rire les vers. Et Baudelaire, qui leur apprend la rime. Je me mets donc à la recherche de cette tombe en vain. Deux vieilles parisiennes nettoient une tombe ornée de drapeaux tricolores. Mais aucune inscription y figure. Cette tombe est anonyme. Ou bien, est-ce celle du maréchal, nous voilà. Je remonte vers l'entrée pour relire le plan. C'est à ce moment-là que j'aperçus, sur un arbre, un plan épinglé en vitesse, avec un seul nom, Gainsbourg. Rapido, je le déchiffre et je retourne à l'endroit inscrit sur le plan. Même si ces apparitions médiatiques m'énervaient au plus haut point, je dois reconnaître qu'il a plus fait pour la chanson française que Patrick Sabatier pour la promotion de Polydent ou tout autre cosmétique douteux. La tombe, on ne peut pas la rater. Il n'y a que des fleurs partout, et des photos du chanteur disparu. C'est beau, mais c'est beau à en pleurer. D'ailleurs, ils sont nombreux à pleurer autour de celle-ci. Rien à voir avec ces mastodontes rutilants. De vieilles dames radotes sur la venue imminente de Jane Birkin qui viendrait arroser les plantes tous les jours. Pendant que le petit-fils fait hurler dans son Walkman les chansons du disparu. Passant du 39e étage et me retrouver là, avec ce silence autour de moi, avec ces gens qui ne veulent pas y croire, me glace le sang. La déroute est totale. C'est vrai qu'on mégalomédiatise tout, à tel point que même les milliers de morts partout, toujours et en tout lieu, deviennent anodins. Et je suis là devant ce mort, devant ces morts. J'ai comme froid dans le dos. Pourtant, la journée est splendide et le soleil inonde cet endroit. Je m'en vais. Baudelaire, je ne l'ai pas vu. Razer non plus. Je sors de ce calme et je me fais happer par la ville infernale. J'entre dans la gare. Je suis encadré par les escalators et les hurlements des annonces d'un prochain départ. C'est vrai qu'on n'arrête pas de partir et que finalement, la vie n'est qu'un grand déplacement de choses et de gens. Mais l'arrivée est la même pour tous. Le petit trou. Mon stylo est en train de mourir de faim, faute de munitions. J'arrête. Je m'endors lentement dans ce train à très grande vitesse. Le roulis m'assomme. Dans quelques heures, je serai rendu à ma destination. J'entre lentement dans ma petite mort temporaire. Je me réveille 3 heures plus tard. Le soleil se couche sur l'Atlantique. Je serai bientôt à Andailles.